Merci beaucoup Alain. Merci à Yves pour la super transition que tu as fait avec mon exposé. Je crois que tu l'as senti. Voilà, on a déjà compris comment on peut mettre en place un patrimoine en sentant les lieux et probablement que ce jardin sera le patrimoine de demain, facteur d'attractivité pour toute une série de résidents. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler en quelques minutes de ces relations entre le patrimoine et l'attractivité d'un territoire. Vous avez bien compris que, quelque part, c'est une gageure, hein, c'est un peu impossible. Mais on va essayer quand même de pointer quelques éléments par-ci par-là sur cette relation intéressante. Alors, c'est vrai aussi que si on a choisi de parler du patrimoine, c'est parce que c'est un peu un complément, finalement, et quelque chose qui s'articule avec les deux autres grands aspects qu'on a vus d'attractivité. L'attractivité économique, qui est évidemment à l'heure actuelle le grand moteur, et puis l'attractivité résidentielle, qui est quand même quelque chose d'important. Mais tout ça va être soutenu par certains éléments du territoire, et le patrimoine en fait partie. Le projet de SDT parle aussi de ça, hein, valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager, et le préserver des pressions de l'urbanisation, faire des atouts du territoire un levier de développement touristique, et donc c'est bien dans ce cadre-là que je vais vous parler pendant quelques minutes. Ouf. Alors, j'ai repris une définition qu'on a élaborée au sein de la CPDT en 2005, donc vous voyez, ça fait maintenant une quinzaine d'années que diverses recherches sont penchées sur les patrimoines. Alors, je ne vais pas vous lire toute la définition, vous pouvez la lire, mais je pense qu'un des éléments qu'il faut retenir, c'est que finalement, le patrimoine n'a pas de réalité objective. C'est donc une construction faite par divers acteurs pour divers objectifs, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir surfer pour développer toute une série de choses. Alors, j'ai repris aussi, je vais essayer de ne pas me tromper de sens, voilà, quelques éléments dans la littérature, et notamment, j'ai trouvé une citation hein, qui est les plus penchée sur la ville, avec la compétitivité d'une ville qui dépend de ses avantages comparatifs en termes de coûts de facteurs de production, de capacité à innover, à créer des richesses. Et complémentairement à cet élément de compétitivité, on nous dit aussi que l'attractivité comporte de nombreux facteurs non directement économiques. Et donc c'est bien là qu'on se situe dans une autre manière de voir l'attractivité. Alors, d'autre part, on peut, outre parler des villes, parler aussi des plus petites villes, des espaces ruraux. Et là, directement, on rentre dans le sujet puisqu'on nous dit que les aménités et le patrimoine suscitent une fréquentation touristique, des activités récréatives artisanales, de production alimentaire spécifique et de qualité. Et donc, tout ça sont des éléments qui vont attirer les populations. Et finalement, il y a une filiation qui a déjà été évoquée dans les exposés précédents entre l'aspect compétitivité, qui a été le grand mot à la mode il y a quelques années. Yves l'a rappelé, on avait fait un colloque sur ce thème-là il y a 10 ans. Maintenant, on parle d'attractivité, ce n'est pas par hasard. Il y a un glissement sémantique. Et je dirais, on pourrait constater ce glissement en se disant, ben voilà, dans le sens commun, est-ce que passer de compétitivité à attractivité, on peut, comment dirais-je, le justifier par plein d'études, on nous en a cité quelques-unes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une espèce de volonté de rentrer dans la logique du politiquement correct, hein? Parce que quand on y réfléchit, compétitivité, ça s'appelle la compétition, ben, il faut se battre pour être le premier, ben, il n'y a qu'un premier, après tous les autres, ils sont perdants d'une certaine manière. Et donc, si on transpose cette logique au territoire, ben on voit que les territoires qui ne sont pas les premiers, ben, ils ont peut-être des perspectives de développement plus faibles et ce n'est pas très rassurant. Par contre, si on rentre dans la logique attractivité, ben, on est beaucoup plus positif, puisque là, on se dit qu'à la limite, chaque territoire peut trouver au moins un facteur où il est plus attractif, plus intéressant, il a un avantage comparatif par rapport aux autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va laisser les autres territoires sur le côté. Donc, il y a probablement des tas d'autres facteurs, bien sûr, mais j'ai essayé de trouver un angle un petit peu, peut-être plus provocant, ou en tout cas différent de ce qu'on voit d'habitude. Et évidemment, vous avez compris, le lien entre patrimoine et attractivité, c'est évidemment que le patrimoine est reconnu abondamment dans la littérature comme un des grands facteurs d'attractivité. On l'a vu tout à l'heure, sous l'angle économique, c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'on parle régulièrement d'attractivité économique, parce que, à l'heure actuelle, dans le système dans lequel on vit, c'est évidemment l'activité économique qui est, en tout cas, dans les discours. On a bien vu que c'était peut-être moins évident que ça dans l'exposé de M. Crevoisier, mais dans le discours, c'est l'économie qui doit primer sur tout. Par contre, sous l'angle résidentiel, on a vu que dans la réalité, c'était peut-être cet angle-là qui était le plus porteur en termes de développement des territoires, en termes de création de richesses dans les territoires. Et donc, dans ce contexte, on va se pencher sur notre capitale territoriale. C'est une notion qui a été mise en place dans divers documents aussi. L'OCDE l'a repris. Il nous dit bien que le capital territorial, c'est un ensemble de caractéristiques d'un territoire, combinaison de facteurs endogènes matériels et immatériels. Il y a 7 sous-ensembles qui constituent ce capital: le capital bâti, le capital financier, le capital naturel, le capital politique, le capital humain, très important, le capital social et le capital culturel. Mais, et le patrimoine là-dedans? Il n'est cité dans aucun de ces capitaux. Et pourtant, on peut se dire que, notamment, capital naturel, capital bâti, capital naturel, c'est fondé en bonne partie, pas uniquement bien sûr, mais en bonne partie sur le patrimoine. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que finalement, les différentes formes de capital constituent des combinaisons uniques selon les lieux. Chaque territoire a un petit peu une pincée de capital naturel, une grosse pincée de capital humain, et avec des proportions différentes partout. Et le tout, c'est d'arriver évidemment à pouvoir trouver la bonne formule qui va permettre de mettre en évidence un territoire, de le rendre plus attractif. Le patrimoine prend alors la forme de différentes ressources. Les ressources naturelles, l'eau, le sol, le sous-sol, la forêt, on peut les assimiler une ressource naturelle. Et ces ressources naturelles, elles peuvent supporter des activités économiques, l'extraction, l'exploitation agricole ou autre, mais aussi, évidemment, une attractivité, une exploitation par une autre forme d'économie, qui est notamment le tourisme et la culture. La question qu'on se pose alors, quelque part, il y a du patrimoine un peu partout. Alors, ce patrimoine, quand va-t-il devenir ressource ? Et si on se rappelle la définition que je vous ai présentée au début, je vous ai bien dit, le patrimoine, ce n'est pas une donnée intrinsèque, ce n'est pas quelque chose de factuel, c'est quelque chose qu'on va construire. Des populations, des individus, des associations, des politiques vont se dire, qu'est-ce qu'on a chez nous, qu'on peut valoriser, et qui fait partie des spécificités de notre territoire. Et finalement, cette construction du patrimoine, elle répond toujours à un objectif. Si on reconnaît un élément du territoire comme patrimoine, c'est parce qu'on veut lui donner une valeur, et cette valeur, elle sert à quelque chose, quelque part. Alors, elle peut servir à attirer des touristes, elle peut évidemment servir à attirer des investisseurs, des habitants, elle peut aussi valoriser, renforcer un sentiment d'identité, et une forme de cohésion sociale importante en regroupant des gens autour de cette valeur qui est présente chez eux, dans laquelle ils peuvent se reconnaître. Et dans cette logique-là, comme Yves, j'ai un peu récupéré des choses qu'on avait déjà faites, et dans les réflexions qui s'étaient faites sur la compétitivité, Yves l'a cité, un des 3 séminaires avait été consacré aux ressources, au patrimoine naturel, mais pas que, au sens très large. Et en conclusion de cet exercice de présentation qui avait été fait dans le domaine, Claire Bilaine, qui était ma collègue pendant tout un temps, ne disait rien d'autre que ce qu'on a évoqué. En tant que patrimoine, un objet n'existe que dans la relation où l'entraînent les acteurs qui se l'approprient. Et il peut faire figure de valeur consensuelle, ça c'est très important. C'est une manière de rassembler les gens sur un élément qui fait, le plus possible en tout cas, consensus, sur lequel on est d'accord. Et il peut aussi faire figure d'outil puissant de construction de territoire et d'identité collective. Donc un territoire commence à exister quelque part parce que les gens se sentent appartenir à ce territoire et ont un sentiment de fierté par rapport à ce territoire. Et du coup, évidemment, il peut aussi être institué en marchandise recherchée. Sous ces différentes formes évoquées brièvement, évidemment, ce patrimoine montre alors son efficacité à l'échelle de la construction locale de l'attractivité, à l'échelle des compétences, de la compétition globale des territoires. On y revient quand même. On est toujours dans une relation ambiguë compétitivité-attractivité. Mais Claire concluait en nous disant le grand avantage de la ressource patrimoniale, c'est d'être compréhensible, maîtrisable et appropriable par les acteurs locaux. Et cette ressource constitue un inépuisable réservoir de sens et de liens, parce que, comme le territoire évolue, il y a toujours de nouveaux éléments qui peuvent se construire en tant que patrimoine. Donc on a vu que le champ de réflexion sur le patrimoine est assez large. Et évoquer tout dans un temps assez réduit, c'est un peu difficile. Et donc, j'ai choisi un axe, notamment d'entrée, qui est la relation patrimoine-tourisme, puisque il est clair que le tourisme est une des grandes valorisations des patrimoines, et que ce patrimoine peut avoir une ampleur, une reconnaissance internationale, comme j'ai dit, Waterloo, mais ça peut être un petit lavoir dans un village dont les gens sont fiers et veulent perpétuer l'existence et montrer aux générations futures comment les choses se passaient. Le bois du Cazier, patrimoine naturel, ça peut être des grands sites reconnus internationalement, comme les marais d'Archi, les pelouses calcaires, un peu plus modestes, mais tout aussi intéressantes. Donc, on a une grande diversité que je ne vais évidemment pas pouvoir balayer dans le temps qui m'est imparti, mais on va peut-être balayer deux, trois petits éléments. Alors, un point qui m'a paru important aussi, c'est que, est-ce qu'au fond, tout patrimoine peut être valorisé autrement que pour ce sentiment d'identité ou pour la fierté ou le bonheur qu'ont eu les gens quelque part à le construire? En tout cas, sur le plan touristique, pas nécessairement. On peut avoir des patrimoines reconnus qui font l'objet d'une attraction, oui, mais peut-être pas aussi extraordinaire que ce qu'on aurait pu espérer. Et au contraire, des lieux qui n'ont pas une reconnaissance extraordinaire parce qu'il n'y a pas un élément emblématique et qui pourtant sont fréquentés. Donc j'ai repris ici deux cartes qui ont été établies dans le cadre de nos recherches précédentes et notamment dans l'analyse contextuelle du SDT. Et on voit dans la carte qui est en haut à gauche le patrimoine UNESCO qui est symbolisé par à cette distance, vous voyez un petit rond un peu grisâtre. Les attractions touristiques importantes, celles qui dépassent 100 000 visiteurs par an, c'est les petits points rouges. Et puis dans la carte d'en dessous, vous avez les communes représenté sous l'angle d'un indice qu'on a construit, qu'on a appelé, c'est très laid, touristicité des communes, en combinant toute une série d'éléments, dont l'hébergement, dont la fréquentation des différentes attractions, mais d'autres éléments ont été pris aussi en considération. Et vous voyez que si, pour une série d'endroits, il y a quand même une certaine concordance entre les petits ronds gris et les petits ronds rouges et la couleur foncée, pour d'autres, vous avez de la couleur foncée avec finalement pas d'éléments qui sont reconnus. Pas d'éléments qui sont reconnus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sans doute des composantes paysagères, naturelles, des bois, des forêts, dans lesquelles les gens aiment se promener, mais qui n'ont pas un statut international, une grande reconnaissance. J'en viens donc maintenant à balayer quelques exemples du patrimoine comme support à la valorisation, mais à des degrés très différents. Alors, j'en ai pris un tout à fait emblématique, évidemment, le champ de bataille de Waterloo, connu depuis bien longtemps, qui a fait l'objet d'une loi assez pionnière en matière de paysage, la loi pour la protection du champ de bataille de Waterloo, adoptée en 1914, c'est vraiment très très tôt, qui protégeait à l'époque les 535 hectares, depuis il y a eu des révisions, on a essayé d'étendre. Pourquoi? Parce que alors que les gens venaient fréquenter un peu spontanément, parce que dans leur cours d'histoire, il y avait cette bataille de Waterloo, c'est quand même un élément fondateur dans l'histoire européenne, quelque part. La défaite de Napoléon a enclenché une recomposition non négligeable de la politique au niveau européen. Et donc, cette fréquentation, bah, c'est un effet d'aubaine pour une série d'acteurs locaux qui ont développé qui une auberge, qui un restaurant, qui un petit musée modeste, élaboré avec les moyens du bord à l'époque. Et ça continue à fonctionner bah, parce que ça reste quelque chose d'assez emblématique. Mais, cependant, une attraction touristique, bah, elle vieillit. Elle vieillit parce que la manière dont les gens veulent consommer le patrimoine, veulent consommer cette attraction, elle évolue avec le temps, les modes passent, les modes changent. Et donc, si un site touristique ne se renouvelle pas, il a beau être intéressant, il a beau être reconnu au niveau européen, voire au niveau mondial, eh bien, il a une chute de fréquentation. Et donc, en lien avec ça, et évidemment, événement emblématique et intéressant, une occasion intéressante, le bicentenaire de la bataille de Waterloo, il y a eu un gros effort de renouvellement, de reconstitution. Et vous voyez qu'après, accroché au bâtiment d'origine avec la peinture qui faisait le panorama de la bataille, on a accroché un nouveau espace muséal, une scénographie moderne, renouvelée, qui permet de valoriser beaucoup mieux le site. Et au-delà du site en lui-même, des paysages, de l'idée de mémoire que ça peut véhiculer, eh bien, il y a d'autres activités qui viennent se greffer, qui viennent profiter de la notoriété ou qui viennent en même temps la renforcer. Et évidemment, j'ai repris un petit clin d'œil avec les reconstitutions. Vous savez que tous les ans, il y a des gens qui viennent s'installer et qui permettent à ceux qui sont un peu nostalgiques du temps passé de revivre quelques éléments de la bataille. Waterloo est un des plus grands sites touristiques de Belgique, fréquenté juste derrière Bruges, ce qui est quand même pas mal. Autre type de patrimoine important, notamment en Wallonie, c'est évidemment le patrimoine industriel, et dans l'exemple que j'ai pris ici, plus particulièrement le patrimoine minier, qui a été à la base d'un développement exceptionnel, parce que bah, y a l'activité minière en elle-même, mais tout ce qu'elle permettait. La sidérurgie, la verrerie et les transports notamment, tout ça sont des choses importantes qui découlent de la présence de cette industrie. Le bois du Cazier, comme d'autres sites miniers, Grand Tournu, Bois du Luc et Bienimine notamment, ont été reconnus en tant que patrimoine mondial UNESCO. C'est vraiment un label prestigieux. Tout récemment, le site est aussi reconnu label du patrimoine européen. Il fait partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Donc, clairement, on accumule les labels et on veut se mettre en avant, ça c'est évident. Le succès espéré, en tout cas, et l'intérêt du site, bah, c'est que c'est un site emblématique, de nouveau ici, de la mémoire collective. Donc, on est dans le grand patrimoine. Et le site a été réaménagé, modernisé, adapté aussi aux besoins actuels. Donc on peut visiter le site pour se rendre compte de ben, comment fonctionne une mine, mais aussi il y a un espace particulier réservé évidemment à la compréhension, à la mise en évidence de tout ce qui s'est passé lors de la catastrophe de 1956. Mais d'autres éléments, d'autres musées ont été greffés. C'est ça l'intérêt, évidemment, c'est de surfer sur un point d'attraction et puis de dire, ben, il y a autre chose. Il n'y a pas qu'une mine, il y a un musée du fer, il y a un musée du verre. Vous pouvez visiter le site et vous pouvez monter sur un terri, un point d'observation très important qui va vous permettre d'avoir une vue sur le paysage voisin du site d'extraction. Et c'est aussi vu comme un espace culturel de manière plus large. On ne vient pas que pour visiter, on vient aussi pour notamment voir des expositions et tout simplement se promener parce que le site présente une grande qualité naturelle au sens où on l'entend habituellement. Savoir que chez nous, évidemment, des sites naturels, il n'y en a plus beaucoup. Autre modèle, on est dans quelque chose de plus modeste, mais qui fait son petit bonhomme de chemin. L'hôpital Notre-Dame à la Rose, un dépliant publicitaire nous dit « Vous entrerez dans un lieu insolite, original et vivant, où règne encore une atmosphère particulière. » Je ne vous lis pas tout le reste, évidemment, je ne suis pas là pour faire la pub de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, mais on voit qu'il y a une appropriation aussi d'un patrimoine qui a été relativement longtemps ou bien il était là, les gens le connaissaient, mais il n'était pas valorisé en tant que patrimoine, en tant que facteur d'attraction. C'est un lieu effectivement intéressant par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on veut transmettre, et par rapport à la mémoire, puisque vous voyez qu'il a été fondé en 1242 et qu'il témoigne vraiment de la manière dont fonctionnait ce genre d'hôpitaux, avec un fonctionnement de type autarcique où on trouvait tout sur place. Mais il est exceptionnel aussi parce que, chance, il a été bien conservé. Malgré ça, il a fallu investir longtemps. Pendant plus de 10 ans, des travaux de rénovation ont été faits, pas seulement de rénovation, mais aussi de mise en valeur, de valorisation via des interprétations, via des petits musées, des expositions. Et donc, c'est un site qui, depuis, s'est bien développé. Vous voyez qu'ici, on a un petit plan qui reprend tous les éléments qui constituent ce site. Et on voit évidemment tout son intérêt, puisque on a à la fois l'hôpital, mais on a à la fois la ferme, on a à la fois les jardins, on a à la fois la glacière. Donc, tous les éléments qui permettaient à cet hôpital de fonctionner correctement, dans lequel on va trouver une série d'explications. On ne se contente pas, évidemment, de le mettre en valeur pour le tourisme. C'est aussi un outil pédagogique majeur pour expliquer aux enfants comment les choses se passaient. Il y a des expositions temporaires pour faire vivre le site en dehors de simplement ces visites touristiques. Et il y a aussi une réflexion plus globale sur comment faire de l'événementiel pour que le site soit vivant, pour que le site sorte de cette image uniquement de témoin figé d'un passé bien révolu, évidemment. Et vous voyez que notamment, j'en ai pris un exemple, mais il y en a d'autres, les responsables, les gestionnaires du site ont mis en place, par exemple ici, l'image que je vous ai montrée, c'était produits intégrés, qui proposent à des groupes qui veulent faire autre chose que juste aller visiter l'hôpital, une série d'activités dans le site, autour du site, et on vous recommande, vous avez une journée, demi-journée à l'hôpital, demi-journée à la cathédrale de Tournai, il y a toute une série de choses comme ça qui ont été mises en place. On passe maintenant dans le patrimoine naturel, les grands paysages, qui depuis aussi, fin du 19e siècle, attirent des touristes, attirent des gens pour leur aspect romantique d'abord, et puis pour leur aspect apaisant pour les citadins que la plupart d'entre nous sont devenus. Et ce site, au fur et à mesure du temps, avait été modifié, avait été planté de sapins, parce que voilà, en Ardennes, c'est une des manières de valoriser son terrain. Et du coup, il avait évolué d'une manière qui n'était peut-être pas aussi sympathique que ce qu'on aurait voulu. Et il a fait donc l'objet de toute une série d'opérations de réhabilitation qui lui ont redonné un aspect, quand on regarde les cartes postales anciennes, qui ressemblent assez bien à ce qu'on voyait au début du XXe siècle. Mais, je ferai un petit clin d'œil, il y a quand même quelque chose qui manque. Ce sont des champs de tabac. Parce qu'à cette époque-là, on cultivait le tabac dans la vallée de l'Assemois. C'était une des grandes parties de sa renommée. Donc, vous voyez que les référentiels qu'on utilise pour reconstituer, pour mettre en valeur, ils sont quand même teintés de nos valeurs actuelles parce qu'on se dit, valoriser le champ de tabac, c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc, il y a une réflexion qui se met en place de ce côté-là. J'ai oublié de vous dire que dans l'aspect touristique, évidemment, il y a les guides touristiques qui nous incitent, qui nous présentent, qui nous donnent envie d'aller visiter des lieux. Et un des guides touristiques célèbres, le guide Vert Michelin, attribue des étoiles, vous le savez probablement tous. Le champ de bataille de Waterloo, il n'a qu'une étoile. 2 étoiles pour le panorama, mais voilà, c'est quand même pas super super. Le tombeau du géant, la vallée de l'Assemois dans l'ensemble, ont droit à 2 étoiles. Et 2 étoiles qui permettent aussi la mise en valeur plus globale du territoire, puisque, outre les aspects naturels, si vous êtes plus féru d'histoire, si vous rêvez aux chevaliers du Moyen-Âge, eh bien, vous pouvez aussi aller visiter le château de Bouillon et les musées qui y sont accolés, le musée du Cal qu'on voit sur l'image à droite, et un archéoscope qui est de l'autre côté, qu'on ne voit pas, il est un petit peu au pied de là où on a fait la photo. Ce sont des sites qui ont aussi, le château aussi 2 étoiles, donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine... Et pourtant, la fréquentation estimée du tombeau du géant du château de Bouillon est nettement plus faible que celle du champ de bataille de Waterloo. Donc, la reconnaissance, Yves parlait des étoiles pour les territoires, pour les villes, il faut toujours s'en méfier, il peut y avoir des choses étonnantes. Alors maintenant, je vais glisser tout doucement de la valorisation strictement ou quasi strictement touristique vers quelque chose qui est plus en lien avec la vie de tout le monde, la vie quotidienne et des citoyens impliqués ou moyennement impliqués dans des projets. Donc j'ai repris ici les coteaux de la citadelle qui, pour ceux qui ne le savent pas encore, je le rappelle, a obtenu le prix du paysage belge pour 2016, a été cité à une mention au prix européen du paysage, donc c'est vraiment un projet de grande qualité. Et j'ai mis que, pour moi, il est vraiment entre la charnière entre tourisme et vie quotidienne. Il n'a pas été valorisé pour les touristes. Les coteaux n'ont pas été valorisés pour les touristes. Ils ont été valorisés parce que des habitants, des citoyens, des gens qui fréquentaient ces lieux ont voulu les mettre en valeur, leur ont reconnu cette valeur de patrimoine. Et il faut dire que la situation est évidemment extraordinaire parce qu'on est quasi dans le centre et en même temps on a un territoire qui est une zone qui est quand même avec des composantes naturelles non négligeables, avec toute une... comment dirais-je, tout un patrimoine historique qui se met en place. Et les coteaux de la citadelle ont 3 étoiles au guide Michelin. Donc vous voyez que des choses qui sont parfois moins connues ou moins emblématiques peuvent avoir du succès et être reconnues par les spécialistes des actions touristiques. Oui, bon, je vais un petit peu accélérer. Donc, vous voyez quelques images de la mise en valeur, notamment, on a construit un belvédère pour bien observer, la mise en valeur via notamment la nocturne qui est un événement qui réunit de plus en plus de gens, d'autres manières de mettre en évidence les pâturages, des jardins collectifs, des potagers, des jardins de réhabilitation, de remise au travail. Et toujours dans ce cheminement du tourisme à la résidence, ben, je peux aller vite parce que Yves en a parlé indirectement à travers les cartes qu'il a montrées. Ben, on voit que les zones rurales ont un certain attrait, à la fois pour des résidents et surtout aussi pour des seconds résidents. Et l'intérêt de ces seconds résidents, c'est que souvent, ils rachètent, ils réhabilitent des constructions existantes. Ils ne construisent pas leur nouvelle maison, 4 façades au beau milieu de leur grand terrain, parce qu'il y a beaucoup de place dans ces zones-là. Et j'ai aussi récupéré d'autres études de la CPDT, donc on a travaillé sur les défis, ce qu'on a appelé les défis des espaces ruraux. Eh bien, on a constaté là-dedans qu'une série de gens qui avaient une seconde résidence dans les zones rurales s'y plaisaient tellement bien qu'à un moment, dans leur parcours de vie, ils transféraient leur résidence principale dans ce lieu et, comme ils sont dans un parcours de vie, ils sont encore jeunes, ce ne sont pas encore les retraités, il y a aussi des retraités, mais il y a des plus jeunes qui viennent s'installer et qui font de ce nouveau lieu de vie leur lieu d'entreprise, d'action, de vie économique. Et donc ça, c'est un point non négligeable, puisque à ce moment-là, ben, un patrimoine qu'on pourrait qualifier d'ordinaire devient aussi un facteur de développement non négligeable d'un territoire. Et j'en viens maintenant aux aspects plus locaux, plus micro, mais qui restent des choses importantes. J'ai repris 2 projets qu'on va voir vite fait. Un projet porté par un GAL, qui s'appelle Culturalité 1SB Brabançonne, et le projet, c'est Pierre, patrimoine et identité culturelle de SB Brabançonne. Donc là, l'idée, c'est de trouver des leviers pour renforcer cette identité culturelle régionale, donc intéresser les habitants, leur faire prendre conscience de la richesse de leur territoire, et sans doute aussi en attirer d'autres. Et l'idée, ça a été de se dire, ben, comment peut-on mettre en valeur le patrimoine classé, alors qu'on sait que malheureusement, la Wallonie est riche, enfin malheureusement, façon de parler, la Wallonie est riche en patrimoine, mais elle est tellement riche en patrimoine qu'elle peine un petit peu à avoir des moyens publics pour entretenir et rénover ce patrimoine. Et donc là, sans attendre des aides régionales, les collectivités locales se sont dit, ben, on va mettre sur la table un peu de sous pour restaurer ce bâtiment, une série de bâtiments, avec l'idée d'intégrer le patrimoine dans le développement du territoire et profiter des travaux pour réaliser des objectifs sociaux, donc éventuellement par des chantiers où on met à l'emploi des gens un peu défavorisés, des éléments énergétiques, des éléments environnementaux. L'idée étant que la qualité du patrimoine et des pierres, ben, c'est un dénominateur commun des entités de l'Est du Brabant Wallon. Je fais un petit peu de pub, je vous renvoie à l'Atlas des plaines Brabançonne et Esbignonne. Et l'idée, c'est que on va essayer de mettre en évidence la qualité du territoire, rendre accessible le patrimoine, appuyer le potentiel touristique, mettre en valeur le cadre de vie, rénover, entretenir par le biais de techniques. Et ça, c'est évidemment une manière aussi de servir d'exemple pour d'autres actions. Et c'est aussi une manière de réunir les gens, de leur donner l'envie d'entreprendre, de leur donner l'envie d'avoir des initiatives locales. Et dans le chapitre des valorisations plus locales, j'ai choisi évidemment quelque chose de différent. Je ne vais pas non plus rester dans soit du monumental, soit du grand paysage. Et donc j'ai pointé parmi beaucoup d'autres actions qui sont développées pour favoriser le développement économique et le développement tout simple des zones rurales. Un exemple, mais donc je m'excuse pour tous les autres parcs, le projet Cyclo-Légende, qui est développé par le parc naturel Haute-Sure-Forêt d'Anlier et qui permet à vélo de découvrir des paysages, des lieux souvent méconnus, et où là, on a surfé, je dirais, on met en valeur surtout les paysages, mais aussi le patrimoine bâti, et avec comme fil conducteur des anciennes légendes, patrimoine culturel, qui a permis aussi d'être symbolisé par des sculptures, par des éléments. Et donc, il y a un apport moderne de l'art qui renforce cette image. Je conclue. J'espère que j'aurai à peu près respecté mon temps. Dans les recherches qu'on a déjà réalisées, donc comme je vous l'ai dit, depuis plus de 15 ans sur le thème du patrimoine, on a vu qu'en fonction des facteurs, en fonction des acteurs, le patrimoine peut être tantôt considéré comme un frein, tantôt comme un moteur de développement. Et un des problèmes qui va se mettre en évidence, curieusement, c'est que quand un patrimoine bénéficie d'un statut de protection fort, c'est plutôt l'aspect frein qui domine, parce que les gens ont peur, parce qu'ils se disent on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut et ça va coûter cher de mettre en valeur. Alors c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de classer, parce que c'est quand même super important. Mais on se rend compte aussi que si un patrimoine bénéficie d'une reconnaissance partagée, que un maximum de gens sur place, d'acteurs sur place, adhèrent à cette notion, à cette valorisation en tant que patrimoine, eh bien à ce moment-là, ça peut devenir, et ça devient, un facteur de développement qui est fédérateur. C'est un réel levier d'accès à divers outils de gestion et ça va générer, ou au travers, soit ça génère, soit ça se manifeste au travers d'un sentiment d'appartenance. Et donc, on voit que le patrimoine peut être valorisé en termes de qualité du cadre de vie, en termes d'image de marque, ça peut être un vecteur de développement économique. Et finalement, tout ce qu'on a vu, ça va plaider pour que la présence de ces patrimoines, sens très large, au sein d'un territoire, soit perçue maintenant le plus souvent comme un atout, plutôt que comme un frein. Et je terminerai en disant, attention quand même, il n'y a pas de recette magique qui garantit qu'un patrimoine mis en valeur entraînera un développement du territoire. Il n'y a pas d'automaticité. Il y a une bonne combinaison de facteurs. Et ce qui fonctionne dans un territoire ne va pas nécessairement fonctionner dans l'autre. Et donc, j'y reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque territoire est une combinaison unique des différents capitaux qu'on a mis en évidence. Et le tout, c'est d'identifier le bon levier plutôt que de se dire, chez un marché comme ça, chez le voisin, je vais faire la même chose comme... Malheureusement, ça se rencontre encore à certains endroits. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et avoir attiré le mieux possible votre attention sur un de ces facteurs de valorisation. Merci.